Chapitre 4 et suivant. Il était 10 heures du matin. Le soleil d'avril trempait de lumière les tendres feuilles des arbres. Allégé par l'orage de la nuit, l'air avait une douceur délicieuse. À longs intervalles, un cavalier, passant sur l'allée des veuves, rompait le silence de la solitude. Au bord de l'allée ombreuse, contre la chaumière de la belle Lilloise, sur un banc de bois, Évariste attendait Élodie. Depuis le jour où leurs doigts s'étaient rencontrés sur le linon de l'écharpe, où leurs souffles étaient mêlés, il n'était plus revenu à l'amour peintre. Pendant toute une semaine, son orgueilleux stoïcisme et sa timidité, qui devenaient sans cesse plus farouches, l'avaient tenu éloigné d'Élodie. Il lui avait écrit une lettre grave, sombre, ardente, dans laquelle, exposant les griefs dont il chargeait le citoyen Blaise et taisant son amour, dissimulant sa douleur, il annonçait sa résolution de ne plus retourner au magasin d'estampes et montrait à suivre cette résolution plus de fermeté que n'en pouvait approuver une amante. D'un naturel contraire, Élodie, encline à défendre son bien en toute occasion, songea tout de suite à rattraper son ami. Elle pensa d'abord à l'aller voir chez lui, dans l'atelier de la place de Thionville. Mais, le sachant d'humeur chagrine, jugeant par sa lettre qu'il avait l'âme irritée, craignant qu'il n'enveloppât dans la même rancune la fille et le père, et ne s'étudiât à ne la plus revoir, elle pensa meilleur de lui donner un rendez-vous sentimental et romanesque auquel il ne pouvait se dérober, et où elle aurait tout loisir de persuader et de plaire, où la solitude conspirait avec elle pour le charmer et le vaincre. Il y avait alors, dans tous les jardins anglais et sur toutes les promenades à la mode, des chaumières construites par de savants architectes qui flattaient ainsi les goûts agrestes des citadins. La chaumière de la belle Lilloise, occupée par un limonadier, appuyait sa feinte indigence sur les débris artistement imités d'une vieille tour, afin d'unir au charme villageois la mélancolie des ruines. Et comme s'il n'eût point suffi pour émouvoir les âmes sensibles d'une chaumière et d'une tour écroulée, le limonadier avait élevé sous un saule un tombeau, une colonne surmontée d'une urne funèbre, et qui portait cette inscription « Cléonis à son fidèle Azor ». Chaumière, ruine, tombeau, à la veille de périr, l'aristocratie avait élevé dans les parcs héréditaires ces symboles de pauvreté, d'abolition et de mort. Et maintenant, les citadins patriotes se plaisaient à boire, à danser, à aimer dans de fausses chaumières, à l'ombre de faux cloîtres, faussement ruinés et parmi de faux tombeaux, car ils étaient les uns comme les autres, amants de la nature et disciples de Jean-Jacques, et ils avaient pareillement des cœurs sensibles et pleins de philosophie. Arrivé au rendez-vous avant l'heure fixée, Évariste attendait, et comme au balancier d'une horloge, il mesurait le temps au battement de son cœur. Une patrouille passa, conduisant des prisonniers. 10 minutes après, une femme, tout habillée de rose, un bouquet de fleurs à la main, selon l'usage, accompagnée d'un cavalier en tricorne, habit rouge, veste et culotte rayée, se glissèrent dans la chaumière, tous deux si semblables aux galants de l'Ancien Régime, il fallait bien croire, avec les citoyens Blaise, qu'il y a dans les hommes des caractères que les révolutions ne changent point. Quelques minutes instants plus tard, venue de Rueil ou de Saint-Cloud, une vieille femme, qui portait au bout du bras une boîte cylindrique peinte de couleurs vives, alla s'asseoir sur le banc où attendait Gamelin. Elle avait posé devant elle sa boîte, dont le couvercle portait une aiguille pour tirer les sorts. Car la pauvre femme offrait, dans les jardins, la chance aux petits enfants. C'était une marchande de plaisir, vendant sous un nom nouveau une antique pâtisserie, car, soit que le terme immémorial d'oubli donna l'idée importune d'oblation et de redevance, soit qu'on s'en fût lassé par caprice, les oublis s'appelaient alors des plaisirs. La vieille essuya d'un coin de son tablier la sueur de son front et exhala ses plaintes au ciel, accusant Dieu d'injustice quand il faisait une dure vie à ses créatures. Son homme tenait un bouchon au bord de la rivière à Saint-Cloud, et elle montait tous les jours aux Champs-Élysées, agitant sa cliquette et criant « Voilà le plaisir, mesdames !» Et de tout ce travail, ils ne tiraient pas de quoi soutenir leur vieillesse. Voyant le jeune homme du banc disposé à la plaindre, elle exposa abondamment la cause de ses maux. C'était la République qui, en dépouillant les riches, ôtait aux pauvres le pain de la bouche. Il n'y avait pas à espérer un meilleur état de choses. Elle connaissait au contraire, à plusieurs signes, que les affaires ne feraient qu'empirer. À Nanterre, une femme avait accouché d'un enfant à tête de vipère. La foudre était tombée sur l'église de Rueil et avait fondu la croix du cocher. On avait aperçu un loup-garou dans le bois de Chaville. Des hommes masqués empoisonnaient les sources et jetaient dans l'air des poudres qui donnaient des maladies. Évariste vit Élodie qui sautait de voiture. Il courut à elle. Les yeux de la jeune femme brillaient dans l'ombre transparente de son chapeau de paille. Ses lèvres, aussi rouges que les œillets qu'elle tenait à la main, souriaient. Une écharpe de soie noire, croisée sur la poitrine, se nouait sur le dos. Sa robe jaune faisait voir les mouvements rapides des genoux et découvrait les pieds chaussés de souliers plats. Les hanches étaient presque entièrement dégagées, car la révolution avait affranchi la taille des citoyennes. Cependant, la jupe, enflée encore sous les reins, déguisait les formes en les exagérant et voilait la réalité sous son image amplifiée. Il voulut parler et ne put trouver ses mots. Il se reprocha cet embarras qu'Élodie préférait au plus doux accueil. Elle remarqua aussi, et tint pour bon signe, qu'il avait noué sa cravate avec plus d'art qu'à l'ordinaire. Elle lui tendit la main. « Je voulais vous voir, dit-elle, causer avec vous. Oui, je n'ai pas répondu à votre lettre, elle m'a déplu. Je ne vous y ai pas retrouvé. Elle aurait été plus aimable si elle avait été plus naturelle. Ce serait faire tort à votre caractère et à votre esprit que de croire que vous ne voulez pas retourner à l'amour peintre parce que vous y avez eu une altercation légère sur la politique avec un homme beaucoup plus âgé que vous. Soyez sûr que vous n'avez nullement à craindre que mon père vous reçoive mal quand vous reviendrez chez nous. Vous ne le connaissez pas. Il ne se rappelle ni ce qu'il vous a dit, ni ce que vous lui avez répondu. Je n'affirme pas qu'il existe une grande sympathie entre vous deux, mais il ne sent rancune. Je vous le dis franchement, il ne s'occupe pas beaucoup de vous, ni de moi. Il ne pense qu'à ses affaires et à ses plaisirs. » Elle s'achemina vers les bosquets de la Chaumière, où il la suivit avec quelque répugnance parce qu'il savait que c'était le rendez-vous des amours vénales et des tendresses éphémères. Elle choisit la table la plus cachée. « Que j'ai de choses à vous dire, Évariste. L'amitié a des droits. Vous me permettez d'en user. Je vous parlerai beaucoup de vous et un peu de moi, si vous le voulez bien. » Le limonadier ayant apporté une carafe et des verres, elle versa elle-même à boire en bonne ménagère, puis elle lui conta son enfance. Elle lui dit la beauté de sa mère qu'elle aimait à célébrer, par piété filiale et comme l'origine de sa propre beauté. Elle vanta la vigueur de ses grands-parents car elle avait l'orgueil de son sang bourgeois. Elle conta comment, ayant perdu à 16 ans cette mère adorable, elle avait vécu sans tendresse et sans appui. Elle se peignit telle qu'elle était, vive, sensible, courageuse, et elle ajouta « Évariste, j'ai passé une jeunesse trop mélancolique et trop solitaire pour ne pas savoir le prix d'un cœur comme le vôtre. Je ne renoncerai pas de moi-même et sans effort, je vous en avertis, à une sympathie sur laquelle je croyais pouvoir compter et qui m'était chère. » Évariste la regarda tendrement. « Se peut-il, Élodie, que je ne vous sois pas indifférent? Puis-je croire que... » Il s'arrêta, de peur d'en trop dire et d'abuser par là d'une amitié si confiante. Elle lui tendit une petite main honnête qui sortait à demi des longues manches étroites garnies de dentelles. Son sein se soulevait en longs soupirs. « Attribuez-moi, Évariste, tous les sentiments que vous voulez que j'aie pour vous, et vous ne vous tromperez pas sur les dispositions de mon cœur. » Élodie, Élodie, mais ce que vous dites là, le répéterez-vous encore quand vous le saurez? Il hésita. Elle baissa les yeux. Il acheva plus bas. Que je vous aime. En entendant ces derniers mots, elle rougit. C'était de plaisir. Et tandis que ses yeux exprimaient une tendre volupté malgré elle, un sourire comique soulevait un coin de ses lèvres. Elle songeait. Il croit s'être déclaré le premier, et il craint peut-être de me fâcher. Et elle lui dit avec bonté. Mais vous ne l'aviez donc pas vu, mon ami, que je vous aimais? Ils se croyaient seuls au monde. Dans son exaltation, Évariste leva les yeux vers le firmament étincelant de lumière et d'azur. « Voyez, le ciel nous regarde. Il est adorable et bienveillant, comme vous, ma bien-aimée. Il a votre éclat, votre douceur, votre sourire. » Il se sentait uni à la nature entière. Il l'associait à sa joie, à sa gloire. À ses yeux, pour célébrer ses fiançailles, les fleurs des marronniers s'allumaient comme des candélabres. Les torches gigantesques des peupliers s'enflammaient. Il se réjouissait de sa force et de sa grandeur. Elle, plus tendre et aussi plus fine, plus souple et plus ductile, se donnait l'avantage de la faiblesse et aussitôt après l'avoir conquis, se soumettait à lui. Maintenant qu'elle l'avait mis sous sa domination, elle reconnaissait en lui le maître, le héros, le dieu, voulait d'obéir, d'admirer et de s'offrir. Sous l'ombrage du bosquet, il lui donna un long baiser ardent, sous lequel elle renversa la tête, et dans les bras d'Évariste, elle sentit toute sa chair se fondre comme une cire. Ils s'entretinrent longtemps encore d'eux-mêmes, oubliant l'univers. Évariste exprimait surtout des idées vagues et pures qui jetaient Élodie dans le ravissement. Élodie disait des choses douces, utiles et particulières. Puis, quand elle jugea qu'elle ne pouvait tarder davantage, elle se leva avec décision, donna à son ami les 3 œillets rouges fleuris à sa fenêtre et sauta lestement dans le cabriolet qu'il avait amené. C'était une voiture de place peinte en jaune, très haute sur roue, qui n'avait certes rien d'étrange, non plus que le cocher. Mais Gamelin ne prenait pas de voiture et l'on en prenait guère autour de lui. De la voir sur ses grandes roues rapides, il eut un serrement de cœur et se sentit assailli d'un douloureux pressentiment. Par une sorte d'hallucination tout intellectuelle, il lui semblait que le cheval de louage portait Élodie au-delà des choses actuelles et du temps présent, vers une cité riche et joyeuse, vers des demeures de luxe et de plaisir où il ne pénétrerait jamais. La voiture disparut. Le trouble d'Évariste se dissipa. Mais il lui restait une sourde angoisse, et il sentait que les heures de tendresse et d'oubli qu'il venait de vivre, il ne les revivrait plus. Il passa par les Champs-Élysées où des femmes en robe claire cousaient ou brodaient, assis sur des chaises de bois, tandis que leurs enfants jouaient sous les arbres. Une marchande de plaisir, portant sa caisse en forme de tambour, lui rappela la marchande de plaisir de l'allée des veuves. Il lui sembla qu'entre ces deux rencontres, tout un âge de sa vie s'était écoulé. Il traversa la place de la Révolution. Dans le jardin des Tuileries, il entendit gronder au loin l'immense rumeur des grands jours, ses voix unanimes que les ennemis de la Révolution prétendaient s'être tus pour jamais. Il hâta le pas dans la clameur grandissante, gagna la rue Honoré et la trouva couverte d'une foule d'hommes et de femmes qui criaient « Vive la République! Vive la liberté !» Les murs des jardins, les fenêtres, les balcons, les toits étaient pleins de spectateurs qui agitaient des chapeaux et des mouchoirs. Précédé d'une sapeur qui faisait place au cortège, entouré d'officiers municipaux, de gardes nationaux, de canonniers, de gendarmes, de hussards, s'avançait lentement sur les têtes des citoyens un homme au teint bilieux, le front ceint d'une couronne de chêne, le corps enveloppé d'une vieille lévite verte à collet d'hermine. Les femmes lui jetaient des fleurs. Il promenait autour de lui le regard perçant de ses yeux jaunes, comme si dans cette multitude enthousiaste, il cherchait encore des ennemis du peuple à dénoncer, des traîtres à punir. Sur son passage, Gamelin, tête nue, mêlant sa voix, 100 000 voix, cria « Vive Marat !» Le triomphateur entra, comme le destin, dans la salle de la convention. Tandis que la foule s'écoulait lentement, Gamelin, assis sur une borne de la rue Honoré, contenait de sa main les battements de son cœur. Ce qu'il venait de voir le remplissait d'une émotion sublime et d'un enthousiasme ardent. Il vénérait, chérissait Marat, qui, malade, les veines en feu, dévoré d'ulcères, épuisait le reste de ses forces au service de la République, et dans sa pauvre maison, ouverte à tous, l'accueillait les bras ouverts, lui parlait avec zèle du bien public, l'interrogeait parfois sur les desseins des scélérats. Il admirait que les ennemis du juste, en conspirant sa perte, eussent préparé son triomphe. Il bénissait le tribunal révolutionnaire qui, en acquittant l'ami du peuple, avait rendu à la Convention le plus zélé, le plus pur de ses législateurs. Ses yeux revoyaient cette tête brûlée de fièvre, sainte de la couronne civique, ce visage empreint d'un vertueux orgueil et d'un impitoyable amour, cette face ravagée, décomposée, puissante, cette bouche crispée, cette large poitrine, cet agonisant robuste qui, du haut du char vivant de son triomphe, semblait dire à ses concitoyens « Soyez à mon exemple, patriotes, jusque dans la mort !» La rue était déserte. La nuit la couvrait de son ombre. L'allumeur de lanterne passait avec son falot et Gamelin murmurait « Oui, jusqu'à la mort !» À 9 heures du matin, Évariste trouva dans le jardin du Luxembourg Élodie qui attendait sur un banc. Depuis un mois qu'ils avaient échangé leurs aveux d'amour, ils se voyaient tous les jours à l'amour peintre ou à l'atelier de la place de Thionville, très tendrement, et toutefois avec une réserve qu'imposait à leur intimité le caractère d'un amant grave et vertueux, déiste et bon citoyen, qui, prêt à s'unir à sa chère maîtresse devant la loi ou devant Dieu seul, selon les circonstances, ne voulait faire qu'au grand jour et publiquement. Élodie reconnaissait tout ce que cette résolution avait d'honorable. Mais, désespérant d'un mariage que tout rendait impossible, et se refusant à braver les convenances sociales, elles envisageaient, au-dedans d'elles-mêmes, une liaison que le secret eût rendue décente jusqu'à ce que la durée l'eût rendue respectable. Elles pensaient vaincre un jour les scrupules d'un amant trop respectueux, et ne voulant pas attarder à lui faire des révélations nécessaires, elles lui avaient demandé une heure d'entretien dans le jardin désert près du couvent des Chartreux. Elle le regarda d'un air de tendresse et de franchise, lui prit la main, le fit s'asseoir à son côté et lui parla avec recueillement. « Je vous estime trop pour rien vous cacher, Évariste. Je me crois digne de vous. Je ne le serais pas si je ne vous disais pas tout. Entendez-moi et soyez mon juge. Bon, je n'ai à me reprocher aucune action vile, basse ou seulement intéressée. J'ai été faible et crédule. Ne perdez pas de vue, mon ami, les circonstances difficiles dans lesquelles j'étais placé. Vous le savez, je n'avais plus de mère. Mon père, encore jeune, ne songeait qu'à ses amusements et ne s'occupait pas de moi. J'étais sensible. La nature m'avait doué d'un cœur tendre et d'une âme généreuse. Et bien qu'elle ne m'eût pas refusé un jugement ferme et sain, le sentiment alors l'emportait en moi sur la raison. Hélas, il l'emporterait encore aujourd'hui s'ils ne s'accordaient tous deux, Évariste, pour me donner à vous entièrement et à jamais. Elle s'exprimait avec mesure et fermeté. Ses paroles étaient préparées depuis longtemps. Elle avait résolu de faire sa confession parce qu'elle était franche, parce qu'elle se plaisait à imiter Jean-Jacques et parce qu'elle se disait raisonnablement « Évariste saura quelque jour des secrets dont je ne suis pas seul dépositaire. Il vaut mieux qu'un aveu, dont la liberté est toute à ma louange, l'instruise de ce qu'il aurait appris un jour à ma honte. » Tendre comme elle était et docile à la nature, elle ne se sentait pas très coupable, et sa confession en était moins pénible. Elle comptait bien d'ailleurs ne dire que le nécessaire. « Ah » soupira-t-elle, « que n'êtes-vous venu à moi, cher Évariste, à ces moments où j'étais seul, abandonné ?» Gamelin avait pris à la lettre la demande que lui avait faite Élodie d'être son juge. Préparé de nature et par éducation littéraire à l'exercice de la justice domestique, il s'apprêtait à recevoir les aveux d'Élodie. Comme elle hésitait, il lui fit signe de parler. Elle dit très simplement « Un jeune homme qui parmi de mauvaises qualités en avait de bonnes et ne montrait que celles-là, me trouva quelque attrait et s'occupa de moi avec une assiduité qui surprenait chez lui. Il était à la fleur de la vie, plein de grâce et lié avec des femmes charmantes qui ne se cachaient point de l'adorer. Ce ne fut pas par sa beauté, ni même par son esprit qu'il m'intéressa. Il sut me toucher en me témoignant de l'amour, et je crois qu'il m'aimait vraiment. Il fut tendre, empressé. Je ne demandai d'engagement qu'à son cœur, et son cœur était mobile. Je l'accuse que moi. C'est ma confession que je fais, et non la sienne. Je ne me plains pas de lui, puisqu'il m'est devenu étranger. Ah, je vous jure, Évariste, il est pour moi comme s'il n'avait jamais été. » Elle se tut. Gamelin ne répondit rien. Il croisait les bras. Son regard était fixe et sombre. Il songeait en même temps à sa maîtresse et à sa sœur Julie. Julie aussi avait écouté un amant. Mais bien différente, pensait-il, de la malheureuse Élodie, elle s'était fait enlever, non point dans l'erreur d'un cœur sensible, mais pour trouver loin des siens le luxe et le plaisir. En sa sévérité, il avait condamné sa sœur. Il inclinait à condamner sa maîtresse. Élodie reprit d'une voix très douce. J'étais imbu de philosophie. Je croyais que les hommes étaient naturellement honnêtes. Mon malheur fut d'avoir rencontré un amant qui n'était pas formé à l'école de la nature et de la morale, et que les préjugés sociaux, l'ambition, l'amour-propre, un faux point d'honneur, avaient fait égoïste et perfide. Ces paroles calculées produisirent l'effet voulu. Les yeux de Gamelin s'adoucirent. Il demanda « Quel était votre séducteur? Est-ce que je le connais ?»« Non, non, vous ne le connaissez pas. Nommez-le-moi. » Elle avait prévu cette demande et était résolue à ne pas la satisfaire. Et elle donna ses raisons. « Épargnez-moi, je vous prie. Pour vous comme pour moi, j'en ai déjà trop dit. » Et comme il insistait, dans l'intérêt sacré de notre amour, je ne vous dirai rien qui précise à votre esprit cet étranger. Je ne veux pas jeter un spectre à votre jalousie. Je ne veux pas mettre une ombre importune entre vous et moi. Ce n'est pas quand j'ai oublié cet homme que je vous le ferai connaître. Gamelin la pressa de lui livrer le nom du séducteur. C'est le terme qu'il employait obstinément, car il ne doutait pas qu'Élodie n'eût été séduite, trompée, abusée. Il ne concevait même pas qu'il en eût pu être autrement, et qu'elle eût obéi au désir, à l'irrésistible désir, écouter les conseils intimes de la chair et du sang. Il ne concevait pas que cette créature voluptueuse et tendre, cette belle victime, se fût offerte. Il fallait, pour contenter son génie, qu'elle eût été prise par force ou par ruse, violentée et précipitée dans des pièges tendus sous tous ses pas. Il lui faisait des questions mesurées, dans les termes, mais précises, serrées, gênantes. Il lui demandait comment s'était formée cette liaison, si elle avait été longue ou courte, tranquille ou troublée, et de quelle manière elle s'était rompue. Et il revenait sans cesse sur les moyens qu'avait employés cet homme pour la séduire, comme s'il avait dû en employer d'étranges et d'inouïs. Toutes ces questions, il les fit en vain. Avec une obstination douce et suppliante, elle se taisait, la bouche serrée, les yeux gros de larmes. Pourtant, Évariste, ayant demandé où était à présent cet homme, elle répondit « Il a quitté le royaume. » Elle se reprit vivant « La France !»« Un émigré !» s'écria Gamelin. Elle le regarda, muette, à la fois rassurée et attristée de le voir se créer lui-même une vérité conforme à ses passions politiques et donner à sa jalousie gratuitement une couleur jacobine. En fait, l'amant d'Élodie était un petit clerc de procureur, très joli garçon, chérubin saute-ruisseau, qu'elle avait adoré et dont le souvenir après 3 ans lui donnait encore une chaleur dans le sein. Il recherchait les femmes riches et âgées. Il quitta Élodie pour une dame expérimentée qui récompensait ses mérites. Entré après la suppression des offices à la mairie de Paris, il était maintenant un dragon sans culotte et le greluchon d'un ci-devant. Un noble, un émigré, répétait Gamelin. Qu'elle se garde bien de détromper, n'ayant jamais souhaité qu'il sût toute la vérité. Et il t'a lâchement abandonné? Elle inclina la tête, il la pressa sur son cœur. « Chère victime de la corruption monarchique, mon amour, te vengeras de cet infâme. Puisse le ciel me le faire rencontrer, oh, je saurai le reconnaître. » Elle détourna la tête, tout ensemble attristée et souriante et déçue. Elle l'aurait voulu plus intelligent des choses de l'amour, plus naturel, plus brutal. Elle sentait qu'il ne pardonnait si vite que parce qu'il avait l'imagination froide et que la confidence qu'elle venait de lui faire n'éveillait en lui aucune de ces images qui torturent les voluptueux, et qu'enfin il ne voyait dans cette séduction qu'un fait moral et social. Il s'était levé et suivait les vertes allées du jardin. Il lui disait que d'avoir souffert, il en estimait plus. Élodie n'en demandait pas tant. Mais tel qu'il était, elle l'aimait et elle admirait le génie des arts qu'elle voyait brûler en lui. Au sortir du Luxembourg, ils rencontrèrent des attroupements dans la rue de l'Égalité et tout autour du théâtre de la Nation, ce qui n'était point pour les surprendre. Depuis quelques jours, une grande agitation régnait dans les sections les plus patriotes. On y dénonçait la faction d'Orléans et les complices de Brissot, qui conjuraient, disait-on, la ruine de Paris et le massacre des républicains. Et Gamelin lui-même avait signé, peu auparavant, la pétition de la Commune qui demandait l'exclusion des 21. Près de passer sous l'arcade qui reliait le théâtre à la maison voisine, il leur fallut traverser un groupe de citoyens en carmagnole que haranguait du haut de la galerie un jeune militaire beau comme l'amour de Praxitèle sous son casque de peau de panthère. Ce soldat charmant accusait l'ami du peuple d'indolence. Il disait: Mais tu dors, Marat, et les fédéralistes nous forgent des fers. À peine Élodie eut-elle tourné les yeux sur lui. Venez, venez, Varis, fit-elle vivement. La foule, disait-elle, l'effrayait et elle craignait de s'évanouir dans la presse. Ils se quittèrent sur la place de la Nation en se jurant un amour éternel. Ce matin-là, de bonne heure, le citoyen Brotteau avait fait à la citoyenne Gamelin le présent magnifique d'un chapon. C'eût été de sa part une imprudence de dire comment il se l'était préoccupé, car il le tenait d'une dame de la halle à qui, sur la Pointe-Eustache, il servait parfois de secrétaire, et l'on savait que les dames de la halle nourrissaient des sentiments royalistes et correspondaient avec les émigrés. La citoyenne Gamelin avait reçu le chapon d'un cœur reconnaissant. On ne voyait guère de telles pièces alors. Les vivres enchérissaient. Le peuple craignait la famine. Les aristocrates, disait-on, le souhaitaient. Les accapareurs le préparaient. Le citoyen Brotteau, prié de manger sa part du chapon au dîner de midi, se rendit à cette invitation et félicita son hôtesse de la suave odeur de cuisine qu'on respirait chez elle. Et de fait, l'atelier du peintre sentait le bouillon gras. Vous êtes bien honnête, monsieur, répondit la bonne dame. Pour préparer l'estomac à recevoir votre chapon, j'ai fait une soupe aux herbes avec une couenne de lard et un gros os de bœuf. Il n'y a rien qui embaume un potage comme un os à moelle. Cette maxime est louable, citoyenne, répliqua le vieux Brotteau. Et vous ferez sagement de remettre demain, après-demain et tout le reste de la semaine ce précieux os dans la marmite qui manquera point de parfumer. La sibylle de Panzouze procédait de la sorte. Elle faisait un potage de choux vert avec une couenne de lard jaune et un vieux Savoranos. Un Synopdon dans son pays, qu'est aussi bien l'os médulaire, si savoureux et succulent. Cette dame dont vous parlez, monsieur, fit la citoyenne Gamelin, n'était-elle pas un peu regardante de faire servir si longtemps le même os? Holme le petit train, répondit Brotteau. Elle était pauvre, bien que prophétesse. À ce moment, Évariste Gamelin rentra, tout ému des aveux qu'il venait de recevoir, et se promettant de connaître le séducteur d'Élodie, pour venger en même temps sur lui la République et son amour. D'après les politesses ordinaires, le citoyen Brotteau reprit le fil de son discours. Il est rare que ceux qui font métier de prédire l'avenir s'enrichissent. On s'aperçoit trop vite de leur supercherie. Leur imposture les rend haïssables. Mais il faudrait les détester bien davantage s'ils annonçaient vraiment l'avenir. Car la vie d'un homme serait intolérable s'il savait ce qui lui doit arriver. Il découvrirait des beaux futurs dont il s'ouvrirait par avance. Il ne jouirait plus des biens présents dont il verrait la fin. L'ignorance est la condition nécessaire du bonheur des hommes. Il faut reconnaître que le plus souvent, ils les remplissent bien. Nous ignorons de nous presque tout, d'autrui tout. L'ignorance fait notre tranquillité, le mensonge notre félicité. Et la citoyenne Gamelin mit la soupe sur la table, dit le Bénédicité, fit asseoir son fils et son hôte, et commença de manger debout, refusant la place que le citoyen Brotteau lui offrait à côté de lui. Car elle savait, disait-elle, à quoi la politesse l'obligeait. 10 heures du matin, pas un souffle d'air. C'était le mois de juillet le plus chaud qu'on eût connu. Dans l'étroite rue de Jérusalem, une centaine de citoyens de la section faisaient la queue à la porte du boulanger, sous la surveillance de 4 gardes nationaux qui, l'arme au repos, fumaient leur pipe. La Convention nationale avait décrété le maximum. Aussitôt, grains, farine avaient disparu. Comme les Israélites au désert, les Parisiens se levaient avant le jour s'ils voulaient manger. Tous ces êtres, serrés les uns contre les autres, hommes, femmes, enfants, sous un ciel de plomb fondu, qui chauffait les pourritures des ruisseaux, et exaltaient les odeurs de sueur et de crasse, se bousculaient, s'interpellaient, se regardaient avec tous les sentiments que les êtres humains peuvent éprouver les uns pour les autres, antipathie, dégoût, intérêt, désir, indifférence. On avait appris, par une expérience douloureuse, qu'il n'y avait pas de pain pour tout le monde. Aussi les derniers venus cherchaient-ils à se glisser en avant. Et ceux qui perdaient du terrain se plaignaient, s'irritaient et invoquaient vainement leurs droits méprisés. Les femmes jouaient avec rage des coudes et des reins pour conserver leur place ou en gagner une meilleure. Si la presse devenait plus étouffante, des cris s'élevaient « Ne poussez pas !» Et chacun protestait, se disant « poussé par soi-même ». Pour éviter ces désordres quotidiens, les commissaires délégués par la section avaient imaginé d'attacher à la porte du boulanger une corde que chacun tenait à son rang. Mais les mains trop rapprochées se rencontraient sur la corde et entraient en lutte. Celui qui la quittait ne parvenait point à la reprendre. Les mécontents ou les plaisants la coupaient. Il avait fallu y renoncer. Dans cette queue, on suffoquait, on croyait mourir. On faisait des plaisanteries, on lançait des propos grivois, on jetait des invectives aux aristocrates et aux fédéralistes, auteurs de tout le mal. Quand un chien passait, les plaisants l'appelaient Pite. Parfois retentissait un large soufflet, appliqué par la main d'une citoyenne, sur la joue d'un insolent, tandis que, pressé par son voisin, une jeune servante, les yeux mi-clos et la bouche entr'ouverte, soupiraient mollement. À toute parole, à tout geste, à toute attitude propre à mettre en éveil l'humeur grivoise des aimables Français, un groupe de jeunes libertins entonnait le « ça ira », malgré les protestations d'un vieux jacobin, indigné que l'on compromît en de sales équivoques un refrain qui exprimait la foi républicaine dans un avenir de justice et de bonheur. Son échelle sous le bras, un afficheur vint coller sur un mur, en face de la boulangerie, un avis de la commune rationnant la viande de boucherie. Des passants s'arrêtaient pour lire la feuille encore toute gluante. Une marchande de choux, qui cheminait sa hotte sur le dos, se mit à dire de sa grosse voix cassée: « Ils sont partis, les bombes, ratissons-nous les boyaux !» Tout à coup, une telle bouffée de puanteur ardente monta d'un égout que plusieurs furent pris de nausées. Une femme se trouva mal et fut remise, évanouie, à deux gardes nationaux qui la portèrent à quelques pas de là sous une pompe. On se bouchait le nez. Une rumeur grondait. Des paroles s'échangeaient pleines d'angoisse et d'épouvante. On se demandait si c'était quelque animal enterré là, ou bien un poison mis par malveillance, ou plutôt un massacré de septembre, noble ou prêtre oublié dans une cave du voisinage. Mais on en a donc mis là, on en a mis partout. Oh, ça doit être un de ceux du Châtelet. Le 2, j'en ai vu 300 en tas sur le pont Change. Les Parisiens craignaient la vengeance de ces ci-devants qui, morts, les empoisonnaient. Évariste Gamelin vint prendre la queue. Il avait voulu éviter à sa vieille mère les fatigues d'une longue station. Son voisin, le citoyen Breteau, l'accompagnait, calme, souriant, son Lucrèce dans la poche béante de sa redingote puce. Le bon vieillard vanta cette scène comme une bombe au charde digne du pinceau d'un moderne ténier. « Ces portefeuilles, ces commères, dit-il, sont plus plaisants que les Grecs et les Romains, si chers aujourd'hui à nos peintres. Pour moi, j'ai toujours goûté la manière flamande. » Ce qu'il ne rappelait point, par sagesse et bon goût, c'est qu'il avait possédé une galerie de tableaux hollandais, que le seul cabinet de M. de Choiseul égalait pour le nombre et le choix des peintures. « Il n'y a de beau que l'antique, répondit le peintre. Et ce qui en est inspiré, je vous accorde que les bambochades de Teniers, de Steen ou d'Hofstad valent mieux que les fanfreluches de Watteau, de Boucher ou de Van Loo. L'humanité y étant laidie, mais non point avilie, comme par un Baudouin ou un Fragonard. » Un aboyeur passa criant: « Le bulletin du tribunal révolutionnaire, la liste des condamnés !» Mais ce n'est point assez d'un tribunal révolutionnaire, dit Gamelin. Il en faut un dans chaque ville. Que dis-je, dans chaque commune, dans chaque canton. Il faut que tous les pères de famille, que tous les citoyens, s'érigent en juges. Quand la maison se trouve sous le canon des ennemis et sous le poignard des traîtres, l'indulgence est parricide. Quoi, Lyon, Marseille, Bordeaux insurgés, la Corse révoltée, la Vendée en feu, Mayence et Valenciennes tombées au pouvoir de la coalition, la trahison dans les campagnes, dans les villes, dans les camps, la trahison siégeant sur les bancs de la Convention nationale, la trahison assise, une carte à la main, dans les conseils de guerre de nos généraux, mais que la guillotine sauve la patrie. Mais pas d'objection essentielle à faire contre la guillotine, répliqua le vieux Breteau. La nature, ma seule maîtresse et ma seule institutrice, ne m'avertit en effet d'aucune manière que la vie d'un homme ait quelque prix. Elle enseigne au contraire de toutes sortes de manières qu'elle n'en a aucun. L'unique fin des êtres semble de devenir la peinture d'autres êtres destinés à la même fin. Le meurtre est le droit naturel. En conséquence, la peine de mort est légitime, à la condition qu'on l'exerce ni par vertu ni par justice, mais par nécessité ou pour en tirer quelque profit. Cependant, il faut que j'aie des instincts pervers, car j'aurais pu y avoir coulé le sang. Mais c'est une dépravation que toute ma philosophie n'est pas encore parvenue à corriger. Les républicains, reprit Évariste, sont humains et sensibles. Il n'y a que les despotes qui soutiennent que la peine de mort est un attribut nécessaire de l'autorité. Le peuple souverain l'abolira un jour. Robespierre l'a combattu, et avec lui tous les patriotes. La loi qui la supprime ne saurait être trop tôt promulguée. Mais elle ne devra être appliquée que lorsque le dernier ennemi de la République aura péri sous le glaive de la loi. Gamelin et Birotteau avaient maintenant derrière eux des retardataires et, parmi ceux-là, plusieurs femmes de la section. Entre autres, une belle grande tricoteuse, en fanchon et en sabots, portant un sabre en bandoulière, une jolie fille blonde ébouriffée, dont le fichu était très chiffonné, et une jeune mère qui, maigre et pâle, donnait le sein à un enfant malingre. L'enfant, qui ne trouvait plus de lait, criait, mais ses cris étaient faibles et les sanglots l'étouffaient. Pitoyablement petit, le teint blême et brouillé, les yeux enflammés, sa mère le contemplait avec une sollicitude douloureuse. « Il est bien jeune, » dit Gamelin en se retournant vers le malheureux nourrisson qui gémissait contre son dos dans la presse étouffante des derniers arrivés. « Il a 6 mois, le pauvre amour. Son père est à l'armée. Il aide que ceux qui ont repoussé les Autrichiens à Condé. Il se nomme Dumonteil, Michel, comme hydrapier de son état. Il s'est enrôlé dans un théâtre qu'on avait dressé devant l'hôtel de ville. Le pauvre ami voulait défendre sa patrie et voir du pays. Alors il m'écrit de prendre patience. Mais comment voulez-vous que je nourrisse Paul ? C'est Paul qu'il se nomme. Puisque je ne peux pas me nourrir moi-même. Ah ! S'écria la jolie fille blonde. Nous en avons encore pour 1 heure, et il faudra ce soir recommencer la même cérémonie à la porte de l'épicière. On risque la mort pour avoir 3 œufs et 1/4 rond de beurre. Du beurre ? Soupira la citoyenne Dumontel. Mais voilà 3 mois que j'en ai pas vu. Et le cœur des femmes se lamenta sur la rareté, la cherté des vivres, jeta des malédictions aux émigrés et voua à la guillotine les commissariats de section qui donnaient à des femmes dévergondées au prix de honteuses faveurs des poulardes et des pains de 4 livres. On sema des histoires alarmantes de bœufs noyés dans la Seine, de sacs de farine vidés dans les égouts, de pains jetés dans les latrines. C'étaient les affameurs royalistes, Rolandins, Brissotins, qui poursuivaient l'extermination du peuple de Paris. Tout à coup, la jolie fille blonde, au fichu chiffonné, poussa des cris comme si elle avait le feu à ses jupes, qu'elle secouait violemment et dont elle retournait les poches, proclamant qu'on lui avait volé sa bourse. Au bruit de ce larcin, une grande indignation souleva ce menu peuple, qui avait pillé les hôtels du faubourg Saint-Germain et envahi les Tuileries sans rien emporter. Artisans et ménagères qui eussent de bon cœur brûlé le château de Versailles, mais se fussent cru déshonorés s'ils y avaient dérobé une épingle. Les jeunes libertins risquèrent sur la mésaventure de la belle enfant quelques méchantes plaisanteries aussitôt étouffées sous la rumeur publique. On parlait déjà de pendre le voleur à la lanterne. On entamait une enquête tumultueuse et partiale. La grande tricoteuse, montrant du doigt un vieillard soupçonné d'être un moine défroqué, jurait que c'était le Capucin qui avait fait le coup. La foule, aussitôt persuadée, poussa des cris de mort. Le vieillard, si vivement dénoncé à la vindicte publique, se tenait fort modestement devant le citoyen Brotteau. Il avait toute l'apparence, à vrai dire, d'un citevant religieux. Son air était assez vénérable, bien qu'altéré par le trouble que causaient à ce pauvre homme les violences de la foule et le souvenir encore vif des journées de septembre. La crainte qui se peignait sur son visage le rendait suspect au populaire, qui croit volontiers que seuls les coupables ont peur de ses jugements, comme si la précipitation inconsidérée avec laquelle il les rend ne devait pas effrayer jusqu'aux plus innocents. Botho s'était donné pour loi de ne jamais contrarier le sentiment populaire, surtout quand il se montrait absurde et féroce. Parce qu'alors, disait-il, la voix du peuple était la voix de Dieu. Mais Brotteau était inconséquent. Il déclara que cet homme, qui fut capucin ou ne le fut point, n'avait pu dérober la citoyenne dont il ne s'était pas approché un seul moment. La foule conclut que celui qui défendait le voleur était son complice. Et l'on parlait maintenant de traiter avec rigueur les deux malfaiteurs. Et quand Gamelin se porta garant de Brotteau, les plus sages parlèrent de l'envoyer avec les deux autres à la section. Mais la jolie fille s'écria tout à coup joyeusement qu'elle avait retrouvé sa bourse. Aussitôt elle fut couverte de huées et menacée d'être fessée publiquement comme une nonne. « Monsieur, dit le religieux à Brotteau, je vous remercie d'avoir pris ma défense. Oh, mon nom importe peu, mais je vous dois de vous le dire. Je me nomme Louis de Longuemare. Je suis un régulier, en effet, mais non pas un capucin, comme l'ont dit ces femmes. Il s'en faut de tout. Je suis clerc régulier de l'ordre des Barnabites, qui donna des docteurs et des saints en foule à l'église. Ce n'est point assez d'en faire remonter l'origine à Saint-Charles, Borromée. On doit considérer comme son véritable fondateur l'apôtre Saint-Paul, dont il porte le monogramme dans ses armoiries. Oh, j'ai dû quitter mon couvent, devenu le siège de la section du Pont-Neuf, et porter un habit séculier. Mon père, dit Brotteau, en examinant la souquenille de M. de Longuemare, votre habit témoigne suffisamment, vous n'avez pas renié votre état. Pas le croire, on croirait que vous avez refermé votre ordre plutôt que vous ne l'avez quitté. Et vous vous exposez bénévolement, sous ces dehors austères, aux injures d'une populace impie. Je ne puis pourtant pas, répondit le religieux, porter un habit bleu comme un danseur. Mon père, ce que je vous dis de votre avis est pour rendre hommage à votre caractère et vous mettre en garde contre les dangers que vous courez. Mais, monsieur, il conviendrait tout au contraire de m'encourager à confesser ma foi, car je ne suis que trop enclin à craindre le péril. Oh, j'ai quitté mon habit, monsieur, ce qui est une manière d'apostasie. J'aurais voulu du moins ne pas quitter la maison où Dieu m'accorda durant tant d'années la grâce d'une vie paisible et cachée. J'obtins d'y demeurer, et j'y gardais ma cellule, tandis qu'on transformait l'église et le cloître en une sorte de petit hôtel de ville qu'il nommait la section. Je vis, monsieur, je vis marteler les emblèmes de la sainte vérité. Je vis le nom de l'apôtre Paul remplacé par un bonnet de forçat. Parfois même, j'assistais au conciliabule de la section et j'y entendis exprimer d'étonnantes erreurs. Enfin, je quittais cette demeure profanée et j'allais vivre de la pension de 100 pistoles que me fait l'assemblée dans une écurie dont on a réquisitionné les chevaux pour le service des armées. Et là, je dis la messe devant quelques fidèles qui viennent attester l'éternité de l'Église de Jésus-Christ. « Moi, mon père, répondit l'autre, si vous voulez le savoir, je me nomme Brotteau et je fus jadis publicain. « Monsieur, répliqua le père Longuemare, je savais, par l'exemple de saint Matthieu, qu'on peut attendre une bonne parole d'un publicain. Mon père, vous êtes trop honnête. Citoyen Brotteau, dit Gamelin, admirez ce bon peuple, plus affamé de justice que de pain. Chacun ici était prêt à quitter sa place pour châtier le voleur. Ces hommes, ces femmes si pauvres, soumis à tant de privations, sont d'une probité sévère et ne peuvent tolérer un acte malhonnête. Il faut convenir, répondit Brotteau, que dans leur grande envie de pendre le larron, ces gens-ci eussent fait un mauvais parti à ce bon religieux, à son défenseur et au défenseur de son défenseur. Leur avarice même et l'amour de l'égoïste qu'ils portent à leur bien les y poussaient. Le larron, en s'attaquant à l'un d'eux, les menaçait tous, et ils se préservaient en le punissant. Au reste, il est probable que la plupart de ces manouvriers et de ces ménagères sont probes et respectueux du bien d'autrui. Ces sentiments leur ont été inculqués dès l'enfance par leurs pères et mères. Ils les ont suffisamment fessés et leur ont fait entrer les vertus par le cul. Gamelin ne cacha pas au vieux Brotteau qu'un tel langage lui semblait indigne d'un philosophe. « La vertu, dit-il, est naturelle à l'homme. Dieu en a déposé le germe dans le cœur des mortels. » Le vieux Brotteau était athée et tirait de son althéisme une source abondante de délices. Ben, « je vois, citoyen Gamelin, que révolutionnaire pour ce qui est de la terre, vous êtes, quant au ciel, conservateur et même réacteur. Robespierre et Marat en sont autant que vous. Et je trouve singulier que les Français, qui ne souffrent plus de rois mortels, s'obstinent à en garder un immortel, beaucoup plus tyrannique et féroce. Car qu'est-ce que la Bastille et même la chambre ardente auprès de l'enfer ? L'humanité copie ses dieux sur ses tyrans, et vous, qui rejetez l'original, vous gardez la copie. Ô citoyens, s'écria Gamelin, n'avez-vous pas honte de tenir ce langage ? Et pouvez-vous confondre les sombres divinités conçues par l'ignorance et la peur avec l'auteur de la nature ? La croyance en un dieu bon est nécessaire à la morale. L'être suprême est la source de toutes les vertus, et l'on n'est pas républicain si on ne croit en Dieu. Robespierre le savait bien, qui fit enlever de la salle des Jacobins ce buste du philosophe Helvétius, coupable d'avoir disposé les Français à la servitude en leur enseignant l'athéisme. Oh, j'espère du moins, citoyen Brotteau, que lorsque la République aura institué le culte de la raison, vous ne refuserez pas votre adhésion à une religion si sage. J'ai l'amour de la raison, je n'en ai pas le fanatisme, répondit Brotteau. La raison nous guide et nous éclaire. Et que vous en aurez fait une divinité, elle vous aveuglera et vous persuadera des crimes. Et Brotteau continua de raisonner, les pieds dans le ruisseau, ainsi qu'il en faisait naguère dans un de ses fauteuils dorés du baron d'Holbach, qui, selon son expression, servait de fondement à la philosophie naturelle. « Jean-Jacques Rousseau, dit-il, qui montra quelques talents, surtout en musique, était un Jean Fesse, qui prétendait tirer sa morale de la nature et qui la tirait en réalité des principes de Calvin. La nature nous enseigne à nous entre-dévorer, elle nous donne l'exemple de tous les crimes et de tous les vices que l'état social corrige ou dissimule. On doit aimer la vertu, mais il est bon de savoir que c'est un simple expédient imaginé par les hommes pour vivre commodément ensemble. Ce que nous appelons la morale n'est qu'une entreprise désespérée de nos semblables contre l'ordre universel, qui est la lutte, le carnage et l'aveugle jeu de forces contraires. Elle se détruit elle-même, et plus j'y pense, plus je me persuade que l'univers est enragé. Les théologiens et les philosophes qui font de Dieu l'auteur de la nature et l'architecte de l'univers nous le font paraître absurde et méchant. Ils le disent bon parce qu'ils le craignent, mais ils sont forcés de convenir qu'il agit d'une façon atroce. Ils lui prêtent une malignité rare même chez l'homme. Et c'est par là qu'ils le rendent adorable sur la terre. Car notre misérable race ne voudrait pas un culte à des dieux justes et bienveillants dont elle n'aurait rien à craindre, et elle ne garderait point de leurs bienfaits une reconnaissance inutile. Sans le purgatoire et l'enfer, le bon Dieu ne serait qu'un pauvre sire. « Monsieur, dit le père Longuemare, ne parlez point de la nature, vous ne savez pas ce que c'est. » « Par Dieu, je le sais aussi bien que vous, mon père. Mais vous ne pouvez pas le savoir, puisque vous n'avez pas de religion, et que la religion seule nous enseigne ce qu'est la nature, en quoi elle est bonne, et comment elle a été dépravée. Au reste, ne vous attendez pas à dire que je vous réponde. Dieu ne m'a donné pour réfuter vos erreurs ni la chaleur du langage, ni la force de l'esprit. Je craindrais de ne vous fournir par mon insuffisance que des occasions de blasphémer et des causes d'endurcissement. Et lorsque je sens un vif désir de vous servir, je le recueillerai pour tout fruit de mon indiscrète charité que... Ce propos fut interrompu par une immense clameur qui partit de la tête de la colonne avertit la file entière des affamés que la boulangerie ouvrait ses portes. On commença d'avancer, mais avec une extrême lenteur. Un garde national de service faisait entrer les acheteurs un par un. Le boulanger, sa femme et son garçon étaient assistés dans la vente des pains par deux commissaires civils qui, à un ruban tricolore au bras gauche, s'assuraient que le consommateur appartenait à la section et qu'on ne lui délivrait que la part proportionnelle aux bouches qu'il avait à nourrir. Le citoyen Brotteau faisait de la recherche du plaisir la fin unique de la vie. Il estimait que la raison et les sens seuls jugent en l'absence des dieux. Il n'en pouvait concevoir un autre. Or, trouvant dans les propos du peintre un peu trop de fanatisme et dans ceux du religieux un peu trop de simplicité pour y prendre grand plaisir, cet homme sage, afin de conformer sa conduite à sa doctrine dans les conjonctures présentes, et charmé et l'attente encore longue, tira de la poche béante de sa redingote puce son Lucrèce, qui demeurait ses plus chères délices et son vrai contentement. La reliure de maroquin rouge était écornée par l'usage, et le citoyen Brotteau en avait prudemment gratté les armoiries, les trois îlots d'or tachetés à beau dernier, content par le traitant de son père. Il ouvrit le livre à l'endroit où le poète philosophe, qui veut guérir les hommes des vains troubles de l'amour, surpente une femme entre les bras de ses servantes dans un état qui offenserait tous les sens d'un amant. Le citoyen Brotteau lut ses vers, non toutefois sans jeter les yeux sur la nuque dorée de sa jolie voisine, ni sans respirer avec volupté la peau moite de cette petite souillon. Le poète Lucrèce n'avait qu'une sagesse. Son disciple Brotteau en avait plusieurs. Il lisait, faisant deux pas tous les quarts d'heure. À son oreille, réjouie par les cadences graves et nombreuses de la muse latine, jaillissait en vain la criaillerie des commères sur l'enchérissement du pain, du sucre, du café, de la chandelle et du savon. C'est ainsi qu'il atteignit avec sérénité le seuil de la boulangerie. Derrière lui, Évariste Gamelin voyait au-dessus de sa tête la gerbe dorée sur la grille de fer qui fermait l'imposte. À son tour, il entra dans la boutique. Les paniers, les casiers étaient vides. Le boulanger lui délivra le seul morceau de pain qui resta et qui ne pesait pas 2 livres. Évariste paya et l'on ferma la grille sur ses talons de peur que le peuple en tumulte n'envahît la boulangerie. Mais ce n'était pas à craindre. Ces pauvres gens instruits à l'obéissance par leurs antiques oppresseurs et par leurs libérateurs du jour s'enfuirent la tête basse et traînant la jambe. Gamelin, comme il atteignait le coin de la rue, vit assise sur une borne la citoyenne Dumonteil, son nourrisson dans ses bras. Elle était sans mouvement, sans couleur, sans larmes, sans regard. L'enfant lui suçait le doigt avidement. Gamelin se tint un moment devant elle, timide, incertain. Elle ne semblait pas le voir. Il balbutia quelques mots, puis tira son couteau de sa poche, un eustache à manche de corne, coupa son pain par le milieu et en mit la moitié sur les genoux de la jeune mère, qui regarda étonnée. Mais il avait déjà tourné le coin de la rue. Rentré chez lui, Évariste trouva sa mère assise à la fenêtre, qui reprisait des bas. Il lui mit gaiement son reste de pain dans la main. « Vous me pardonnerez, ma bonne mère, mais fatigué d'être si longtemps sur mes jambes, épuisé de chaleur dans la rue, en rentrant à la maison, bouchée par bouchée, j'ai mangé la moitié de notre ration. Il reste à peine votre part. » Et il fit mine de secouer les miettes sur sa veste.